Vous êtes bien sur Radio Orient, il est midi, le journal François-Xavier de Calonne. La Maison-Blanche autorise une nouvelle aide en armes de 200 millions de dollars pour l'Ukraine. Objectif, aider le pays à se défendre contre l'invasion russe. Tunisien, ligne de vie d'un peuple, l'ouvrage de Pierre-Noël Denieuil, un livre dans lequel il donne la parole à des dizaines de Tunisiens. Il sera l'invité de la bibliothèque de Radio Orient à 19h, extrait dans votre édition. Malgré un rebond des contaminations au Covid-19, la France va lever demain l'essentiel des restrictions. Le carême a débuté le 2 mars dernier pour les catholiques et protestants, le 7 mars pour les orthodoxes. Un temps propice au dialogue interreligieux, nous dira l'ex-directeur des relations avec les musulmans au sein de l'Église catholique, Vincent Feroldi, prêtre du diocèse de Lyon. La fin ce dimanche des Jeux paralympiques de Pékin. Le skieur français Arthur Bauchet a remporté aujourd'hui sa 3e médaille d'or. Les accusations de Vladimir Poutine sur des violations flagrantes du droit humanitaire par les forces ukrainiennes sont des mensonges. Réaction de l'Élysée après un nouvel échange hier entre le président russe, le président français et le chancelier allemand. Emmanuel Macron et le chancelier allemand ont de nouveau appelé la Russie à un cessez-le-feu immédiat et à lever le siège de Mariupol où la situation est humainement insoutenable selon les mots de la présidence française. La Maison-Blanche a autorisé une nouvelle aide en armes de 200 millions de dollars pour l'Ukraine. Objectif, aider le pays à se défendre face à l'invasion de la Russie. Après des fonds débloqués fin 2021, Washington avait autorisé le 26 février une aide en équipement militaire sans précédent de 350 millions de dollars, dont deux tiers avaient été livrés le 4 mars, selon un responsable du Pentagone. Une annonce alors que la Russie a menacé hier de cibler les livraisons d'armes occidentales à l'Ukraine. Le vice-ministre russe des Affaires étrangères a dit avoir averti les États-Unis que ces convois devenaient des cibles légitimes en citant les systèmes de défense aérienne portable et les systèmes de missiles anti-chars. 12 missiles balistiques tirés hors des frontières de l'Irak ont visé à l'aube le consulat américain Erbil, la capitale du Kurdistan d'Irak. Ces tirs ont fait des dégâts, mais pas de victimes. L'extension de la colonisation en Cisjordanie occupée, la Commission israélienne pour la planification et la construction a approuvé un plan visant à construire 730 logements au nord de Jérusalem, des logements construits dans 14 bâtiments de 12 étages. En Tunisie, l'Institut national de la statistique annonce une hausse de l'inflation de 6,7% en janvier dernier, une tendance à la hausse pour le 4e mois consécutif. Le carême a débuté le 2 mars dernier pour les catholiques et protestants, le 7 mars pour les orthodoxes, un temps propice au dialogue interreligieux, nous dit l'ex-directeur des relations avec les musulmans au sein de l'Église catholique, Vincent Faorli, prêtre du diocèse de Lyon.
C'est un temps propice, mais j'ai envie de dire encore plus, vu les circonstances, parce qu'on se rend bien compte que tous les croyants, tous ceux qui se mettent vraiment sous le regard de Dieu, tous ceux qui veulent se soumettre à la volonté de Dieu, savent que Dieu est de toute miséricorde, c'est le Dieu de l'amour, c'est le Dieu de la vie, c'est le Dieu de la paix. Et on se rend bien compte que dans ce contexte gravissime pour l'Ukraine, pour l'Europe et pour le monde, il faut que tous les hommes de bonne volonté et les croyants dialoguent, se rencontrent pour que l'on trouve des chemins pour vraiment aller vers la lumière, vers la paix, vers l'espérance. Et qu'on se rend compte là, que tout peut arriver. Hein. Jamais j'aurais imaginé personnellement que je puisse entendre parler aujourd'hui de guerre mondiale, de guerre nucléaire. Et on sait que malheureusement, c'est pas une pure idée, que ça peut être une réalité. Donc dans ce contexte, le dialogue est d'autant plus important parce qu'il faut faire tomber nos peurs entre nous et il faut surtout faire grandir les uns envers les autres et s'aider à ce que nous rentrions dans une fraternité, dans une reconnaissance de l'autre, dans un accueil de la diversité, mais au service du bien commun de tous.
Concernant ce dialogue interreligieux, comment avez-vous accueilli cette rencontre récente entre le recteur de la Grande Mosquée de Paris, Maître Shemseddine Hafiz, et le pape François?
C'est un signe, je vais dire justement, de ce désir de se reconnaître, de se connaître, et de communier à des valeurs communes. Au cours de la rencontre, dans le message que le recteur de la Grande Mosquée de Paris a adressé au pape François, il a fait référence à ce texte d'Abu Dhabi du 4 février 2019, où le grand imam d'El-Azhar, le pape François, ont donné finalement au monde un peu une dynamique disant il faut que l'on fasse grandir la fraternité pour la coexistence commune. Et on voit bien qu'aujourd'hui même, dans ces heures dramatiques, la coexistence commune entre toutes les nations est non seulement fragilisée, mais elle est même en péril. Et c'est pour cela qu'une telle rencontre, parmi, j'allais dire, d'autres rencontres, passées et à venir, elles ne peuvent être que fécondes dans la mesure où c'est vraiment dans un désir de s'entraider, de voir comment aider nos communautés.
Vincent Feroldi, prêtre du diocèse de Lyon, ex-directeur des relations avec les musulmans au sein de l'Église catholique. Malgré un rebond des contaminations au Covid-19, la France va lever demain l'essentiel des restrictions. Le pass vaccinal qui impose d'être vacciné contre le Covid pour accéder à de nombreux lieux sera levé. Le masque, lui, ne sera plus obligatoire à l'exception des transports et des établissements de santé. Cet allègement concerne donc notamment les écoles, les commerces, les entreprises qui garderont le choix de l'imposer ou non à leurs employés. Par ailleurs, le Premier ministre a annoncé hier l'ouverture de la 4e dose de vaccin pour les personnes âgées de 80 ans ou plus et qui ont reçu leur dose de rappel depuis plus de 3 mois. La fin ce dimanche des Jeux paralympiques de Pékin. Le skieur français Arthur Bauchet a remporté sa 3e médaille d'or. C'est sa 4e médaille lors de ces Jeux. La France finit ses paralympiques avec 12 médailles, dont 7 en or et une 4e place au classement général derrière la Chine, l'Ukraine et le Canada. À 19h, l'invité de la bibliothèque de Radio-Orient sera Pierre-Noël Denilleuil, auteur de Tunisien à ligne de vie d'un peuple, publié aux éditions, aux ateliers Henri Dougier. Un livre dans lequel il donne la parole à des dizaines de Tunisiens, extrait de cette émission.
On parle beaucoup de la Tunisie comme une mosaïque de par son histoire. Et j'ai voulu reconstituer cette mosaïque au contemporain. Et pour cela, ben je me suis tourné vers des femmes tunisiennes, vers des jeunes engagés dans la révolution tunisienne de 2011, vers des associations de la société civile, vers des artistes, des cuisiniers, des cinéastes. Et puis, bien entendu, des Tunisiens de France, parce que leur relation à la Tunisie est très forte.
Pierre-Noël Denilleuil, vous l'avez dit tout à l'heure, la Tunisie est une terre mosaïque, c'est une terre de compromis. Et vous dites que dans son histoire, la Tunisie a toujours su s'adapter. Ça, c'est un point important, une spécificité tunisienne.
Oui, effectivement, c'est dans l'histoire, on peut voir, par exemple, pendant la période abside et sénite, les mariages mixtes turcs-ottomans avec les Tunisiennes et les Tunisiens. On a pu voir aussi au moment du protectorat la médiation avec le pouvoir beylical qui a fait que les Tunisiens n'étaient pas directement confrontés aux colonisateurs. Il y a beaucoup d'autres exemples. On peut trouver aussi un exemple très récemment par rapport à la révolution tunisienne. En 2013, au moment des conflits politiques et des assassinats politiques de 2013, il y a eu une période qui a été nommée le dialogue national. Et ce dialogue national, en fait, a mis les associations de la société civile et les politiques en discussion. Et à partir de là est né un compromis, une sorte de consensus qui a débouché en janvier 2014 sur la nouvelle constitution tunisienne. Et cette période du dialogue social a permis finalement aux Tunisiens de faire partir d'une certaine manière le parti au pouvoir qui était le parti Ennahda, mais de le faire partir avec les meilleurs honneurs et sans conflit direct.
Pierre-Noël Denis, auteur de Tunisien, Ligne et de vie d'un peuple, publié aux ateliers Henri Dougier. Il est l'invité de la bibliothèque de Radio Orient ce soir à 19h, émission présentée par Loïc Barrière. À 12h30, votre journal en langue arabe avec Mazen Hamoud. J'aurai le plaisir de vous retrouver à 15h pour le flash, 18h pour le journal. Tout de suite, votre rendez-vous avec l'humanité. Très bon début d'après-midi à l'écoute de Radio Orient.